France Culture.
This is London.
À la recherche de Winston Churchill.
The Prime Minister, the Right Honorable Winston Churchill.
Pierre Assouline, Yvon Croisier.
Cher Winston Churchill, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire.
This is your victory. Victory of the cause of freedom is everywhere. In all our long history, we have never seen a greater day than this.
Troisième épisode, Churchill, l'écrivain.
Vous souvenez-vous, Sir Winston, de cet après-midi du 15 octobre 1953 où l'Académie suédoise vous a inscrit sur la liste glorieuse des prix Nobel de littérature pour votre maîtrise dans l'art de l'histoire et de la biographie ainsi que l'admirable talent oratoire que vous avez mis au service de la défense des plus hautes valeurs humaines. Vous n'avez jamais eu l'occasion d'entendre les motifs de l'Académie de la bouche même de son secrétaire perpétuel, Anders Österling, mais il n'est pas trop tard. Tenez, nous voici sous les lambris cossus dans le docte recueillement ouaté de la bibliothèque Nobel.
La Svenska Akademien idag har beslutat tilldela Sir Winston Churchill 1953 års Nobelpris i litteratur. Så har det skett med en motivering av följande lydelse.
Cette année-là, pas de contestation sur la personne ni sur l'œuvre. Le prix vous revenait de plein droit, Sir Winston. Et vous nous disiez... Je suis très fier d'un tel témoignage d'honneur accordé malgré la concurrence de tous les écrivains du monde. Je possède un certain nombre de distinctions nationales, mais le Nobel est ma première de caractère international. Et puisqu'aucune circonstance, même solennelle, ne saurait entamer votre humour, Dieu merci, vous avez ajouté, en évoquant vos prédécesseurs britanniques, Rudyard Kipling et Bernard Shaw, mes idées se trouvent certes davantage dans la ligne de Kipling. Seulement Kipling n'a jamais eu une très haute opinion de moi, tandis que Shaw n'a jamais cessé de me couvrir d'éloges. Vous n'avez pu venir à Stockholm, hélas, où vous étiez convié au Palais Royal pour la cérémonie solennelle du 10 décembre. Vous avez su, pourtant avec tellement de délicatesse, en adoucir l'amertume, puisque vous nous avez envoyé votre meilleur représentant, votre autre vous, Lady Clementine. C'est elle qui a lu au banquet Nobel votre discours. Écoutez.
Your Majesties, Your Royal Highnesses, ladies and gentlemen, I'm now going to read a message which my husband has given me and which he asked me to read to you this evening.
Et puisque vous n'étiez pas là, voulez-vous entendre ce moment de la cérémonie où vous auriez dû recevoir des mains du souverain suédois les attributs de votre prix?
But here it is the author who gives luster to the prize. I ask you now to accept on behalf of your husband the 1953 Nobel Prize for Literature from the hand of His Majesty the King.
Bien, alors, je ne sais pas si on parle dans les micros, est-ce qu'on est entendu?
François Kersaudy, biographe de Churchill et traducteur de ses mémoires de guerre chez Talandier.
Alors,
il en lisait les extraits au théâtre Mouffetard avec le comédien Jean-Michel Noiret.
Bon, on va vous parler d'un prix Nobel. On va aussi parler d'un phénomène, je ne vous le cache pas. D'ailleurs, même si je vous le cachais, vous apercevriez très vite. Voilà un personnage qui a eu, dès son adolescence... Trois vocations bien affirmées, le métier des armes, la politique et l'écriture. Et toute sa vie, il va poursuivre les trois carrières successivement ou simultanément, et à chaque fois qu'il sera bloqué dans l'une, il prendra l'autre. Et vous avez affaire finalement à un politicien guerrier qui écrit, un guerrier politicien, un écrivain qui fait la guerre, un soldat qui se mêle d'écrire, et tout ça est assez fabuleux, ça lui vaut pas que des amis, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quelqu'un qui a toujours été un écrivain compulsif, même avant la Seconde Guerre mondiale, il a déjà écrit 14 ouvrages, dont une histoire multivolume de la Première Guerre mondiale, qui s'appelait « The World Crisis », et dont Balfour disait méchamment qu'il avait lu la brillante autographie de Winston déguisée en histoire de l'univers. Vous voyez, un petit peu. Et donc, on se doutait qu'il allait. D'ailleurs, en 1936, Churchill avait dit, lors d'une petite altercation au Parlement avec le Premier ministre, Baldwin avait dit « L'histoire dira que vous avez eu tort dans cette affaire ». Et si j'en suis certain, c'est parce que c'est moi qui l'écrirai. Mais même pendant la guerre, lorsque on reçoit dans les ministères ces notes qui sont impératives et comminatoires, les fonctionnaires s'envoient les notes et les lettres de instructions de Churchill d'une table à l'autre et d'un bureau à l'autre, disant « encore une pour les mémoires ». Donc il se doutait bien de ce qui allait se passer. Et effectivement, après la guerre, lorsque Churchill est forcé par les électeurs de se retirer du pouvoir, eh bien, il va se mettre, après un certain temps d'hésitation, à la rédaction de ses mémoires. Dans des circonstances qui peuvent surprendre, parce que d'abord c'est un travail d'équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une équipe d'assistants qui sont une demi-douzaine et qui font le travail de recherche pour lui, qui font même le travail de qui rédigent les canevas des chapitres ou qui envoient à des experts pour les rédiger. Et puis lui, eh bien, il churchillise l'ensemble, c'est-à-dire qu'à partir d'écrits à peu près ordinaires, eh bien, il fait des choses extraordinaires. Il faut voir un petit peu comment il travaille aussi, il faut le voir. En général, il fait ça depuis le fond de son lit, avec une perruche sur la tête, un chat sur les genoux, un caniche sur les pieds, et voilà, il se fait monter les documents d'archives de sa cave où il s'était empilé dans la chaufferie, devant la chaudière, au grand effarement de son archiviste, voilà. Et puis il prend ça dans son lit, il découpe ce qui l'intéresse, il jette le reste. Enfin bon, tout ça se fait de façon assez désordonnée. Puis après, on envoie ça pour révision à tous les acolytes du temps de guerre, 20, 30, 40, des généraux, des ministres, etc., enfin, tous les parlementaires, tout ça, tout le monde relit ça un petit peu. Et puis en plus, c'est censuré. Alors c'est censuré aussi un petit peu par tout le monde, par ses anciens collègues, par le Foreign Office, par le ministère de la Guerre, par les services secrets, par le roi, par le gouvernement, par le général Eisenhower. Tout le monde a son mot à dire là-dedans. Et vous imaginez un petit peu le général de Gaulle qui accepterait une censure au moment de rédiger ses mémoires. Donc c'est assez extraordinaire. D'autant qu'il y a ce style, il y a des magnifiques phrases cadencées. C'est plus sensible en anglais, bien entendu, mais enfin, bon, il y a des allitérations, il y a des rythmes triples, etc. Il y a métaphores filées à l'infini. C'est quand même très beau, vous verrez. Le lecteur de ces lignes doit comprendre combien est opaque et déroutant le voile de l'inconnu. Voilà, c'est très beau, ça vous résume un petit peu les incertitudes du politicien. Et puis, il vous résume 20 années d'entre-deux-guerres en vous disant « c'est ainsi que la malveillance des méchants se renforça de la faiblesse des vertueux ». Voilà, ça aussi, une belle formule, bien lapidaire, etc. Et puis, il vous évoque les heureuses et sereines altitudes où toutes questions sont réglées pour le plus grand bien du plus grand nombre.
grâce au bon sens de la plupart et après consultation de tous. Et en plus, c'est ironique parce qu'il vous raconte ça au moment où il y a un horrible bazar au milieu du gouvernement. Et tout ça est quand même très impressionnant. Pourquoi est-ce que ça n'a pas impressionné tout simplement parce qu'à l'époque où ça a été traduit, il fallait que ça soit fait vite. Les mémoires sont sorties entre 48 et 53. Et en France, l'éditeur a voulu absolument que ça sorte à peu près en même temps et que ça lui coûte pas trop cher, comme c'est toujours le problème des éditeurs. Et donc, il faut reconnaître qu'il a pris des gens qui n'étaient pas extrêmement qualifiés. La moitié ne comprenait pas l'anglais et l'autre moitié ne parlait pas bien français. Voilà, tout ça peut faire oublier, effectivement, que Churchill a reçu le prix Nobel de littérature. Et s'il l'a reçu, c'est justement parce que, évidemment, les gens du Nobel l'ont lu en anglais. Et qu'ils ont vu, effectivement, que c'était une œuvre littéraire au sens le plus noble du mot. Alors, on va commencer. Là, on est au tout début, on est en 1919, on est après la Grande Guerre. Et là, évidemment, il faut lui laisser la parole.
Germany had fought nearly the whole world, almost single-handed, and she had almost conquered. Those who knew the most knew best the several occasions when the results of the Great War had trembled in the balance.
Winston Churchill était-il véritablement un écrivain? Après tout, si la question se pose pour De Gaulle, elle doit se poser pour Churchill. Il a certes beaucoup publié, des biographies, des livres d'histoire, des mémoires et même un roman, Savrola, ce qui en fait un auteur, mais un écrivain. Et pour autant, méritait-il le prix Nobel de littérature, ce qui a surpris beaucoup de monde, y compris parmi ses admirateurs. En tout cas, l'œuvre est là, imposante et discutable, et le Nobel, au fond, apparaît comme la dernière touche apportée par l'excentrique à son autoportrait.
We have at length emerged from a scene of material ruin and moral havoc, the like of which had never darkened the imagination of former centuries.
Nous sommes enfin sortis d'un chaos de ruines matérielles et morales qui n'a jamais obscurci l'imagination des siècles précédents. Après tout ce que nous avons souffert et tout ce que nous avons accompli, nous nous trouvons encore confrontés à des problèmes et des périls qui, loin d'être moins graves, sont plus redoutables encore que ceux auxquels nous avons échappé de si peu. Ayant vécu et agi à cette époque, je me propose de montrer avec quelle facilité aurait pu être évitée la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Comment la malveillance des méchants se renforça de la faiblesse des vertueux. Nous verrons ensuite comment les conseils de prudence et de retenue peuvent devenir les premières causes de périls mortels. Comment les demi-mesures nées du désir de sécurité et de tranquillité peuvent mener au cœur même du désastre. Nous verrons combien il est nécessaire que de nombreux États avancent en commun sur une large voie d'action internationale, d'année en année, quels que soient les flux et reflux des politiques nationales.
Robert Toms, vous qui êtes historien, est-ce que vous êtes frappé, voire choqué, qui sait, par la manière dont l'historien et mémorialiste Winston Churchill a écrit ses mémoires et ses livres d'histoire, c'est-à-dire avec une équipe assez importante de ghostwriters, de nègres, on peut le dire comme ça?
Je suis plutôt jaloux. C'est une façon luxueuse de faire l'histoire que j'aimerais bien avoir l'occasion d'essayer une fois. Mais d'avoir, comme vous dites, une équipe de personnes souvent très éminentes qui écrivaient des textes Churchill passait la matinée au lit à corriger et puis à refaire quelquefois une douzaine de fois. Donc il passait sa matinée au lit à corriger les textes, ajouter sa personnalité, sa tournure de phrase, et aussi de couper les choses qui n'étaient pas très, qui étaient un peu gênantes. Et puis l'après-midi, il peignait, le soir, il dînait, il jouait aux cartes, et puis juste avant de se coucher, il faisait encore un peu d'histoire. Mais donc le gros du travail était fait par les autres. Lui, il ajoutait l'élégance, l'intelligence, l'esprit.
La sauce Churchill, mais tout de même, à la fin, il soumettait le manuscrit à la censure royale, à la censure du Foreign Office. Est-ce que c'est ça, la façon d'écrire l'histoire?
Il a eu des privilèges avec les documents qui étaient encore des documents secrets, après tout. Donc, il était obligé, comme je pense que tout homme politique, même de nos jours, est obligé de soumettre son manuscrit à l'approbation du Foreign Office ou du Cabinet Office, simplement pour éviter les gênes diplomatiques de nos jours. C'est ce qu'on fait encore. Ce n'est pas, on peut dire, idéal, mais c'est la règle du jeu si on veut utiliser les documents qui appartiennent au gouvernement.
Mais à votre avis, Robert Thoms, qui a reçu le prix Nobel de littérature? L'historien, le romancier, le mémorialiste ou le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale?
Oh, je pense probablement le vainqueur, bien que c'est vrai que c'est un grand écrivain, même s'il utilise, comme vous dites, une équipe. C'est un homme c'est un artiste quand même. Et on peut lire son histoire avec plaisir et avec profit même de nos jours. Il aurait voulu, semble-t-il, avoir le prix Nobel de la paix. Il était un peu déçu d'avoir le prix Nobel de littérature, mais il était content d'avoir l'argent. Parce que pour lui, écrire était toujours, et c'était essentiel, une façon de gagner de l'argent aussi. Et il est devenu extrêmement riche avec l'argent qu'il a fait de son livre.
Il faudrait peut-être regarder comment on attribuait le prix Nobel de littérature à cette époque. Ce n'était pas toujours de la même façon dont on l'attribue dans la période après. Ce que j'avais quand même envie de dire au sujet de Churchill et l'histoire, c'est que on avait dit que Churchill n'avait pas vraiment de système, ou n'aimait pas les systèmes, n'aimait pas l'idéologie, mais tout de même, s'il aimait quelque chose, c'était sa position, sa personnalité dans l'histoire. Il avait une vision de l'histoire où il figurait de manière très importante, et tous ses écrits vont dans le même sens, c'est-à-dire mettre, ce n'est pas peut-être étonnant pour un homme politique, mais même avant d'avoir été un homme politique, dans ses lettres qu'il écrivait du Soudan quand il y était en 1898, il y avait un désir de se manifester par rapport à l'histoire qui a continué tout au long de sa vie. Et il était assez honnête, il le reconnaissait lui-même que c'est ça qu'il faisait. Et il disait, je me rappelle, « Laissez le passé à l'histoire, surtout comme je propose d'écrire cette histoire moi-même. » Ou « L'histoire me sera généreux, car j'ai l'intention de l'écrire. »
Donc en ce sens, John Kegger, Churchill n'était pas un historien, au sens qu'il aurait été un de vos collègues, mais c'est un artiste et un écrivain, donc un écrivain d'histoire en quelque sorte, quelqu'un qui peut se permettre de faire ce qu'il veut à l'histoire. Comme disait Dumas, il est permis de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants.
Ce n'est pas très politically correct, mais c'est tout à fait quelque chose qu'on peut comprendre. Il n'était pas un historien au sens
académique
du terme, mais il était un historien qui a quand même tracé l'histoire de son temps d'une manière un peu idiosyncratique, mais de manière très intéressante toujours.
Vous avez lu ses mémoires, Hubert Védrine. Qu'est-ce que vous pensez de l'écrivain, Churchill ?
Je pense que c'est un grand écrivain. Alors, je ne sais pas si ça justifie le prix Nobel de littérature, qu'il a eu pour des raisons, à mon avis, autant politiques que littéraires, mais C'est le cas de la plupart des prix Nobel, hein. Enfin, sauf quand on est dans un domaine scientifique précis.
Oui.
C'est 10 fois plus vrai encore du Nobel de la paix, dont on ne sait pas très bien sur quels critères il est attribué.
Oui, mais en littérature, non ?
Littérature, ça dépend. Enfin, oui, c'est un grand écrivain, mais pas plus que De Gaulle, par exemple.
Oui, vous les mettez sur le même plan ou l'un supérieur à l'autre ?
Non, sur le même plan, le style est différent. C'est-à-dire que le style de De Gaulle est plus marmoréen, disons, plus classique au sens Corneille. Corneille, Tacite, etc. Mais non, Churchill est un écrivain puissant. Plus il captive plus l'attention, on sent qu'il a été journaliste au grand sens du terme, grand reporter. Donc il a un vrai talent de narrateur, pour décrire. Donc il y a un mélange. Alors, je ne sais pas où il est entre De Gaulle et Joseph Kessel. Je ne sais pas, il se promène entre les deux.
Jean Blot, vous qui êtes écrivain, comment jugez-vous l'écrivain Winston Churchill?
Mais difficile de vous répondre. Vous savez, je suis très exigeant en matière de littérature. La prose littéraire est aussi différente de la prose tout court que la poésie l'est de la chansonnette, dirons-nous. Donc, il a parfois des formules admirables. Mais vous dire que j'entends quelque chose de particulier dans son anglais, non. Il y a évidemment, comme il y a chez De Gaulle, un tempérament qui traverse les pages, qui les porte et qui est un tempérament fort. Et en conséquence, ce que l'on ressent est aussi une impression forte.
Mais alors, selon vous, qu'est-ce qui a poussé les académiciens suédois à lui attribuer le prix Nobel de littérature ?
Oh, vous savez, les académiciens suédois sont assez imprévisibles. C'était aussi une manière de snobber les écrivains professionnels, de leur montrer que finalement il y avait d'autres gens qui savaient écrire autre qu'eux, et que par ailleurs, là, ils n'avaient pas tort, que l'importance de ce que l'on dit est tout de même aussi une valeur par rapport à la manière de le dire.
C'est un des 4 plus grands écrivains de langue anglaise du XXe siècle.
François Kersaudy.
Ses concurrents, vous avez Shaw, vous avez Wells, Kipling, qu'il adorait, et Kipling le détestait d'ailleurs, enfin, c'est autre chose. Et décrire l'écrivain Churchill, c'est quelque chose d'assez fabuleux, quand on pense que c'est en même temps quelqu'un qui avait quand même bien d'autres choses à faire et qui en même temps a le sens du rythme de la phrase anglaise comme ne l'a aucun politicien et comme l'ont très peu d'écrivains. Pour que les Français comprennent, on ne peut pratiquement le comparer qu'à De Gaulle en tant qu'écrivain, avec cette différence que De Gaulle avait beaucoup de mal à écrire. Churchill, lui, écrivait d'inspiration. D'ailleurs, il n'écrivait pas, il dictait. C'est d'ailleurs amusant parce que c'est quelqu'un qui dictait ses livres et qui écrivait ses discours. Ce qui frappe dès le début, dès les premières œuvres, c'est le sens de l'image et le sens du rythme de la phrase, la légèreté du style et la possibilité d'injecter de l'humour au milieu des pires tragédies. Et puis, il y a quelque chose de l'énergie invraisemblable du personnage qui passe dans sa prose.
Jean-Claude Zilberstein, votre passion ou votre intérêt pour Churchill a commencé quand exactement ? Est-ce que c'est un intérêt uniquement d'éditeur, j'oserais dire d'avocat, d'intellectuel ou de simple lecteur ?
Les deux, mon général. En réalité, j'ai récupéré des tomes un peu dépareillés de la grande édition de son histoire, la Deuxième Guerre mondiale, pour laquelle il a eu le prix Nobel de littérature, à l'époque où j'étais stagiaire, disons, auprès de la Cité, avec George Hoffman. Et lorsque Henri Beauvais et les éditions Talendier m'ont proposé de faire une collection chez eux, cette collection qui s'appelle donc Texto, j'ai remis la main sur mes Churchill. Et j'ai été frappé par le génie de Churchill. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est génie protéiforme. Ce que j'ai admiré, c'est l'écriture. Je veux dire, il y a quand même une richesse de vocabulaire. Je l'ai lu essentiellement en français, mais aussi en anglais. Et il y a une hauteur de vue, une originalité dans l'écriture qui m'ont beaucoup frappé. D'où l'envie de remettre, ça c'est ma marotte, en librairie ces textes dont j'estime à l'instar d'autres dont j'ai été le, comment dirait-on, au Collège de Pataphysique, le provéditeur en librairie, remettre en librairie des livres dont j'estime qu'ils n'auraient jamais dû en sortir.
It was a strange experience, like suddenly resuming a previous incarnation. It seemed that I was all that survived in the same position I had held so long ago. But no, the dangers had survived too.
Je pense que c'est son oreille qui lui permettait d'écouter ce que j'appelle encore, contre l'avis de tout le monde, le génie de la langue anglaise.
Michael Edwards, professeur au Collège de France et spécialiste de Shakespeare.
Dans un de ses discours le plus célèbre, peut-être le plus célèbre, après la bataille d'Angleterre, il dit que l'Angleterre venait de vivre un moment absolument historique, que l'invasion était repoussée, la RAF avait la maîtrise de l'air, etc. Et c'était l'effet de très peu de gens, quelques pilotes. Et il termine le discours par une expression qu'il est impossible de traduire en français. Enfin, je vais faire de mon mieux. Mais en anglais, c'est « Never in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few. » Tout le monde a entendu cela. Alors, en anglais, « so much, so many, so few ». En français, c'est plus ou moins « jamais dans l'histoire des guerres, autant n'a été accompli pour un si grand nombre de personnes par un si petit groupe ». Ça ne donne rien comme ça. Mais ça ne donne rien, précisément parce que, en plus de cette espèce de triplé cicéronien, il y a l'anglais monosyllabe et germanique à la fin. Has so much been owed by so many to so few. Ce sont des monosyllabes, ce sont des mots d'origine germanique. Très souvent, comme je le dis à propos de Shakespeare, quand on descend vraiment dans le sérieux de la vie en anglais, on oublie le génie latin de la langue, parce qu'évidemment il y a un génie latin dans l'anglais grâce au français, et on descend dans le fond germanique, les monosyllabes, les consonnes germaniques, la force, le rythme des monosyllabes.
Are turning the tide of the world war by their prowess and by their devotion. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. All our hearts go out to the fighter pilots whose brilliant action we see with our own eyes day after day. But we must never forget that all the time, night after night, month after month, our bomber squadrons travel far into Germany, find their targets in the darkness by the highest navigational skill.
Jean-Claude Zilberstein, pour le général de Gaulle, le jugement littéraire s'étend jusqu'aux lettres, notes et carnets, et parfois même les discours. Est-ce que c'est également le cas pour Winston Churchill, puisque vous publiez, dans la même collection, la plupart de ses discours? Alors évidemment, les discours de guerre sont les plus célèbres, d'autres sont moins connus, moins célèbres, peut-être moins enflammés, moins lyriques. Quel est votre avis littéraire sur la question?
Alors, s'agissant de discours, on peut penser que la churchillisation est à 90%. Là encore, moi, je suis pétrifié d'admiration devant le mouvement du style churchillien. Il y a le sens de la formule, il y en a mille, des formules dans son œuvre en général. Je ne crois pas que ça puisse venir des nègres de Churchill. Mais dans les discours, comme dans la plupart des autres textes de Churchillisés, pour reprendre votre expression, il y a un mouvement, un enthousiasme, dans l'expression, une absence de censure qui font mon bonheur.
Oui, la formule, c'est bien de lui, puisqu'il les sortait même à table, oui, dans la conversation, oui, 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 en permanence, et elles sont aussi célèbres que celles de Georges Bernard Shaw. Et vous êtes un passionné et un expert en littérature anglaise, en esprit anglais littéraire. De qui vous le rapprocherez? Parce que on essaye toujours de trouver des ancêtres et des aïeux à un écrivain. Et donc là, l'écrivain Churchill, on connaît ses lectures, puisqu'on connaît sa bibliothèque, elle est très classique. Mais vous le rapprocherez de quel courant littéraire anglais?
Est-ce qu'on peut citer Disraeli dans...
Bien sûr, parce que c'est un écrivain.
Ouais, ouais. Et aussi un auteur de bons mots.
Et aussi un conservateur, ça tombe bien.
Oui, il y a une réplique célèbre à la Chambre des... lorsqu'il était à la Chambre des Lords, je crois, où... quelqu'un marmonne une formule antisémite à son égard, et Disraeli lui répond « My lord, quand vos ancêtres mangeaient encore des glands dans la forêt de Sherwood, les miens vêtus de lin et de pourpre célébraient leur dieu dans le temple de Jérusalem. » Donc il y a sûrement une filiation avec Disraeli. Pour le reste, je vous dis, enfin, littérairement parlant et du point de vue de la liberté de l'esprit, de ce sens de la formule, il m'est arrivé de dire que c'était un cocktail entre Evelyn Waugh et Woodhouse. Bon, c'est évidemment caricatural, mais je pense qu'il y a quelque chose de cette tradition anglaise-là dans l'écriture de Churchill. Parmi les autres écrivains...
Peut-être même parmi les historiens, parce qu'il a été lecteur de Gibbon, de Macaulay et de beaucoup d'autres. Et il a parfaitement intégré cet esprit-là, et puis il a le sens de la durée, il a le sens de l'histoire.
Hein. Oui, il y a aussi, j'ai lu de certains de ces articles. Et je pense que pendant sa traversée du désert, il n'avait pas tous les collaborateurs qui l'ont aidé à mettre au point cette gigantesque histoire de la Deuxième Guerre mondiale en 12 volumes, dont nous avons publié l'édition abrégée par ses soins, ou en tout cas par sa volonté. On trouve dans ses articles, dont encore une fois je pense que, enfin, lorsqu'il était notamment correspondant de guerre, c'est lui qui les écrivait, il n'avait pas le Foreign Office à sa disposition pour le faire, de sorte que ce semi-procès que d'aucuns lui ont fait d'avoir beaucoup fait appel à des nègres me paraît, à l'égard de du véritable écrivain qui était Churchill, quelque peu injuste.
Beau, puisqu'on est ici dans un décor de théâtre, au théâtre du Rond-Point, dans la salle Jean Tardieu, qui nous est chère et qui vous est chère à différents égards. Est-ce qu'on peut dire pour autant que Churchill est un personnage dramatique, un vrai personnage de théâtre?
J'en ai l'impression, car il assumait cette situation. Il faisait quand même beaucoup de théâtre. Il en faisait particulièrement à la Chambre des communes, où ses dialogues et ses répliques sont célèbres, ses disputes avec la leader du Parti libéral. je n'ose pas citer la fameuse réponse. Lady Asquith, il énervait beaucoup Lady Asquith. Il l'interrompait tout le temps, elle est absolument furieuse. Et elle lui dit, Winston, si j'étais ta femme, je mettrais du poison dans ton café. Et Churchill aussitôt lui répond, si j'étais ton mari, je le boirais. Il avait un sens de la réplique probablement acquis à la Chambre des communes, dans une période où les heurts rhétoriques étaient très violents, où des gens savaient faire.
Est-ce que pour vous, c'est un écrivain ?
Alors, je sais qu'on a beaucoup rigolé quand il a eu le prix Nobel de littérature. Mais moi, j'aime bien. Moi, je trouve qu'il écrit vraiment très bien.
Vous reconnaissez son style, sa patte ?
Je ne dirais pas que je reconnaisse très vraiment, mais je l'ai toujours lu avec plaisir, pas seulement parce que j'admirais beaucoup des moments et des caractères de l'individu. Non, je trouve qu'il savait vraiment écrire. Hein. Et c'est quand même moins pompeux que De Gaulle.
Alors, vous, Jacques Roubaud, qui avez beaucoup travaillé, ruminé, réfléchi sur la biographie, et en même temps, en tant qu'anglophile, vous êtes familier de ce qu'on appelle les vies brèves, John O'Bray et quelques autres, qui sont une spécialité anglaise avec la saucisse et le parapluie. Si vous deviez concevoir ou écrire une vie brève de Winston Churchill, c'est-à-dire un concentré de faits en peut-être une page ou deux de Churchill, ça ressemblerait à quoi ? Qu'est-ce que vous diriez ?
Ah, je dirais un peu des choses que je viens de vous dire. Je les mettrai en quelques phrases, c'est-à-dire que je partirai de dire un paragraphe sur la vision de Churchill de l'enfant de 1940, quelque chose sur ses répliques dans ses débats à la Chambre des communes, différentes choses de ce genre en 5 ou 6 paragraphes. Je pense que ça pourrait faire une vie brève assez intéressante.
Mais le point d'orgue de cette vie brève, ce serait 1940. Pour vous, il est né ce jour-là ?
Oui. Je dirais absolument, il est né dans ses discours de la Chambre des communes. Voilà. Blood, sweat and tears. Absolument, pour moi. Pour moi, c'est ça, Churchill. Il a été vraiment formidable. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, il y a déjà quelques temps, je pense que c'est le dernier des livres de Claude Simon. Et dans ce livre, toute la première partie, il raconte en direct ce qui a nourri beaucoup de ses romans, qui sont ces jours terribles de mai 40. Et il intercale là-dedans des extraits des mémoires de guerre de Churchill, où Churchill raconte son arrivée à Paris quand il voit que l'armée française est en train de s'effondrer. Et donc, c'est très bien fait par Simon parce qu'il décrit ça en suivant Churchill, qui arrive en avion, un petit avion, puis de là on l'emmène, etc. Et décrit, et il cite les quelques phrases extrêmement sobres de Churchill, qui disait qu'il ne comprenait pas ce qui s'était passé, ou plutôt il craignait trop de le comprendre. C'est le thème de l'étrange défaite de Marlock.
In the problems which the Almighty sets his humble servants, things hardly happen the same way twice over. Or if they seem to do so, there is some variant which stultifies undue generalization.
Dans les problèmes que le Tout-Puissant pose à ses humbles serviteurs, il est très rare que les choses se passent deux fois de la même manière.
Ici, à la librairie Hatchards, à Londres, juste en face de la Royal Academy of Arts, qui est une des plus belles et des mieux tenues librairies de Londres, il y a un département Churchill qui est très vivant depuis très longtemps. Et quelqu'un qui le connaît très bien, c'est justement Roger Katz, qui est avec nous et qui est l'un des managers de Hard Charts. Ça existe dans toutes les librairies de Londres?
Non, c'est unique ici, parce que Winston Churchill, il était client ici pour quelques années, et quand il a écrit les premiers livres ici, il a fait les signer ici spécial. Oui. Moi, j'ai un livre dans mon bureau en haut là, et c'est signé par lui parce qu'il était ici plusieurs fois, parce qu'il était un journaliste et un écrivain à la même temps.
Et donc, il était client, Churchill. Alors, est-ce qu'il y a, parce qu'ici, il y a tout un mur, Churchill.
Oui, il y a deux murs.
Deux même, deux, ça fait
parce
un mur,
que, oui. Le premier, ce sont des livres qui sont empreintes à cet instant. Mais l'autre, ça, c'est quelque chose de spécial. C'est les seuls livres que moi, dans les magasins ici, qui sont seconde main, je pense, c'est le mot français.
Ce sont des livres d'occasion.
Oui, c'est ça, exactement.
Alors, Roger Katz, s'il y a tout un mur chez Hard Charts, vénérable librairie londonienne sur Churchill, c'est qu'il y a quand même une clientèle. Donc, c'est que ça intéresse les gens aujourd'hui encore, 60 ans après.
C'est incroyable. Quand on entre dans le magasin, là, le premier bureau, il y a un petit livre, ça. C'est très bien connu, c'est le Wit and Wisdom de Winston Churchill.
Ce sont des citations.
Oui, c'est toujours là. Et maintenant, on a vendu plus que 10 000 copies. 10 000 copies d'un petit livre. Ça reste tout le temps là, pour beaucoup d'années.
Ça se vend très bien.
Et. My Early Life, ça. Ou La Guerre des Rivières, River War. Ce sont les deux premiers volumes qu'il a écrits. Ce sont très bien, très fameux. Ils sont, moi, je pense, les plus intéressants. Et j'espère
donc
parce
ça,
que.
Donc, ce sont des mémoires de,
oui,
de jeunesse.
Oui, de jeunesse, oui.
Ça, donc, l'époque où il était jeune soldat.
Oui.
Ça marche
il y
bien.
A deux. C'est My Early Life et c'est River War. C'est La Guerre des Rivières et Ma vie de jeunesse.
Donc finalement, Roger Katz, votre librairie Hard Charts est un bon reflet d'une tendance de l'esprit anglais. On peut dire qu'en 2010, il s'intéresse toujours à Churchill point d'acheter un livre sur la guerre, alors qu'il y a eu quand même des dizaines de livres sur Churchill et la guerre.
Ici, nous sommes toujours commerciaux. Si ce n'était pas un bon marché, on ne fait pas. Non, c'est intéressant. C'est pas seulement ici en Angleterre.
Écoutez, en tout cas, du point de vue des lecteurs, ils sont tous absolument enthousiastes. Notamment, et surtout, à l'égard des souvenirs de jeunesse. La confrontation entre le jeune Winston et ses études de latin, c'est quelque chose qui m'a permis de dire que ça faisait penser à la fois à Woodhouse et à Evelyn Waugh. Et je n'ai pas été démenti par ses meilleurs lecteurs. Et ce sont des livres qui ont vraiment trouvé un public, puisqu'on est très au-delà des 10 000 exemplaires.
Jean-Claude Zilberstein, vous dites 10 000 exemplaires, ça c'est pour les jeunes années?
Ça c'est pour mes jeunes années, et tous les autres livres progressent d'une façon telle que je pense qu'on va assez rapidement arriver au même chiffre. Quant alors à l'histoire, au premier tome de l'histoire de son histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on en est à 30 000 exemplaires en grand format.
Ce sont ses mémoires de guerre?
Les mémoires de guerre.
Il y a 10 ans, moi j'ai pensé, oui, ça c'était quelque chose pour les gens qui sont dans un certain âge, on doit dire. Mais maintenant, c'est pas la vérité, parce que maintenant, la jeunesse devient de plus en plus intéressant dans un homme comme lui. Parce que, vraiment, c'est l'histoire maintenant. Tu sais qu'on commence avec My Early Life, ça c'est 100 ans maintenant. Tu sais, il a commencé son vie avec un cavalry charge, dans une guerre avec des chevaux. Il avait un charge contre le Mahdi. Il a terminé, il a été fait les négociations avec l'atomic bomb.
Il y a quelque chose dans ses débuts de Lawrence,
oui.
Dans le côté aventurier.
Quoi, Lawrence of Arabia?
Oui.
Il y a ici un livre. Il y a ici un livre sur Gertrude Bell. Gertrude Bell était une femme qui était très intéressante, très importante. C'était elle, avec Churchill, qui a fondu l'Irak. Ok, ici dans le livre, c'est ça, la fille du désert. Remarquable. Il y a une photo ici avec elle, Churchill, et Laurence Arabia sur des chameaux devant le pyramide.
Ah oui.
C'est Churchill, Gertrude Bell et Laurence Arabia. Quand on regarde ça, ils sont tous avec un grand sourire. Pourquoi? Parce que une minute avant cette photo, Winston a tombé. Mais ça, c'est historique. Laurence of Arabia, Gertrude Bell et Winston Churchill, devant les pyramides. Devant le Sphinx.
Vous ne trouvez pas qu'il y a une parenté dans le côté aventurier entre Churchill et Lawrence, entre la guerre des bourgs, le Mahdi, le Soudan?
C'est intéressant. Ils sont tous les deux écrivains. Ils sont tous les deux étudiants de historique. Ils sont tous les deux
soldats.
Soldats. Sont tous les deux, comment on dit, sont pas conservatifs normaux. Ils sont des rebelles.
Des rebelles.
Des rebelles. Oui.
Oui, c'est ça.
Mais
ça,
c'est les différences entre les deux. Tu sais, en 1910, il y a des possibilités pour des hommes comme ça.
Fournel, écrivain.
En fait, aujourd'hui, on a plus vraiment le contact avec des gens comme ça. Churchill, c'était un auteur. Et aujourd'hui, nos hommes politiques sont des acteurs, ça n'a plus rien à voir. C'était un auteur, et un peu comme De Gaulle d'ailleurs. C'est des gens qui avaient la maîtrise d'abord du verbe, et la maîtrise de leurs apparences, de leurs discours. Il avait une langue sublime. Il écrivait merveilleusement bien, il a eu un destin d'écrivain, il a eu un destin de peintre parce qu'il était dans cette concentration-là. Il a fabriqué un personnage magnifique. Quand on voit la différence entre le petit officier de l'armée lorsqu'il était jeune et ce vieil homme ventru, immense, qui tenait une place folle avec ses gros cigares, avec son gros ventre et cette espèce d'occupation de la place extraordinaire. Et il savait à quel point cette incarnation de lui-même était essentielle, puisque il a voyagé pendant toute la période de la guerre avec les moyens de transport de l'époque. Il a fait plus de 160 000 kilomètres pour se rendre en personne, voir les présidents, voir les décideurs, voir les terrains, voir être partout. Et il a fait toujours ça comme un auteur. Et donc aujourd'hui, on peut pas se rendre compte véritablement de ce que c'était. Lorsqu'on voit Sarkozy, Gordon Brown ou Cameron, peu importe, on voit des images. On voit, vous imaginez pas Jacques Séguéla derrière Churchill en train de lui expliquer ce qu'il faut qu'il fasse, comment il faut qu'il s'habille, enfin quelle tenue il doit mettre, et quel discours il doit tenir. La question ne se pose même pas. Lorsqu'on voyait Churchill, comme lorsqu'on voyait De Gaulle, on voyait le pouvoir, on le croyait. On pouvait pas ne pas croire qu'ils avaient pas le pouvoir. C'était impossible, ils avaient le pouvoir. À tel point même qu'on leur a refusé après. Parce qu'on considérait qu'ils étaient tellement adaptés au moment dans lequel ils travaillaient que, après, il allait faire du désastre. Et donc il y avait ça. Aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à se figurer un homme politique de cette façon-là.
Quand vous dites un auteur, ce n'est pas défaut de dire un écrivain, mais plutôt un auteur de sa vie et de sa destinée.
Oui, absolument. Auteur au sens complet, auteur de lui-même en tant que personnage, parce que il a joué un personnage toute sa vie, cette espèce d'appétit féroce pour tout, cette volonté de dominer, cette volonté d'être. Il y a une construction de personnage. On voyait bien comment de temps en temps, il fallait qu'il aille se ressourcer, qu'il aille se redémarrer dans sa petite peinture ou dans sa grande peinture, peu importe. Mais comment il fallait qu'il se reconstruise pour repartir d'un
d'un nouvel élan dans cette forme qui s'était donnée, avec une science vraiment d'écrivain, et en plus, bien sûr, une langue d'écrivain, un verbe d'écrivain, cette parole comme ça, un peu empêchée, avec ces... Alors, rentrons pas dans la lutte, savoir si c'est des aisément ou des bégaiements, ou des... je pense pas que ça ait une véritable importance, mais cette façon d'être un peu empêché qui lui a permis de surmonter un obstacle de plus et d'imposer cette espèce de discours.
Il y a quelque chose en lui, des excentriques anglais, dans la vieille tradition de l'excentricité anglaise telle qu'on l'a vue chez les littéraires au 19e et au 20e siècle.
Je partage entièrement cette opinion.
Jean Blot, écrivain.
Il y a du dandy, il y a de l'excentrique, bon, on se cigare en permanence. Oui, vous avez certainement raison. D'abord, il y a l'aventurier qui est aussi, fait aussi un peu partie
De la panoplie.
Oui, de l'anglais en tant que tel et comment dire, presque la conséquence de l'insulaire, il faut bien aller quelque part. Bon, alors, il y a toutes ces aventures, certaines très glorieuses, d'autres un peu moins, toujours très courageuses, en tout cas jamais, toujours pleines de hardiesse, il n'y a jamais le moindre trait de peur physique que l'on puisse relever dans toute cette histoire. Bon, ceci dit, l'homme a des mots comme ça, c'est cruel, mais aussi qui sont très anglais. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il vient d'être battu aux élections par Monsieur Attlee, et donc l'histoire qu'il raconte est la suivante. Un taxi libre et vide s'arrête devant le 10 Downing Street. Sort Monsieur Attlee. Voyez-le, je crois. Non, je pense que vous avez entièrement raison. C'est un excentrique. Et dans une large mesure, l'amour qu'il a provoqué chez les Anglais était un peu tributaire de cette excentricité. Voilà pourquoi. Les Anglais ont tout de même, plus que tout autre, le peur du overstatement, d'une éloquence trop grande. Comme vous le savez, tout ce que Nelson a trouvé à dire à Trafalgar, c'est que l'Angleterre s'attend à ce que chacun fasse son devoir. Bien. Comme vous voyez, c'est pas très inspirant. Et je crois que cette excentricité, ce physique, cette tête de bulldog qu'il soignait, ce cigare, etc., faisait partie d'une image de marque, comme on dit aujourd'hui, d'une image politique qui était importante et qui l'a certainement servi, mais qui en même temps correspondait, comme vous le dites, au caractère profond de ce duc, enfin il n'est pas duc, je crois, enfin bon, de ce Malbrook qui a du sang de dandy dans les veines.
Dites, Eric Simon, on est là dans le pub de Winston Churchill, mais je me demande, est-ce ici qu'on a le plus de chances de le trouver, Sir Winston ? Son esprit, en tout cas.
L'esprit de Churchill, ben moi je vais vous dire, chez tous les excentriques anglais, dans toute l'excentricité britannique, chez ces gens qui aiment vivre à leur manière, cultiver leur jardin... oui, c'est vraiment... Winston est un petit peu comme ça.
Je me souviens avoir vu Churchill à l'enterrement de Sir Dudley Pound, qui était l'amiral en chef de la flotte anglaise.
Jean Oberlet.
Ce qui est un grade éminent, comme vous pouvez le penser. Alors, il y avait la musique des fusiliers marins qui marchaient en tête. Il y avait un brouillard gris dans Piccadilly, ils allaient vers Westminster. Et la musique des fusiliers marins jouait la marche funèbre de Chopin. Et derrière, en tête de tout le monde, il y avait Churchill, habillé tout en noir, avec un chapeau de forme gigantesque, des gants noirs. Il marchait en battant la mesure avec sa canne, presque, et il marchait sur la mesure de la marche funèbre de Chopin. C'était tellement un spectacle de M. Pickwick que j'avais beaucoup de mal à ne pas éclater de rire devant ce cortège funèbre, n'est-ce pas ? Et en même temps, c'était tellement joli, pittoresque et artistique que je me disais, il n'y a qu'un artiste pour faire ça.
Et alors, vous savez que dans le pub...
Éric Simon.
Où allait notre ami Churchill jeune, il y avait également une société littéraire qui fascinait Churchill. Société littéraire qui avait été créée par
un homme qui s'appelait J.K. Chesterton, l'auteur du Père Brown, des romans policiers du Père Brown, et puis de
pas plus... Seulement, et pas seulement auteur de romans policiers, mais théologien.
Théologien, grand théologien remarquable catholique, théologien. Absolument remarquable théologien. Voilà, et donc il y avait cette société dans ce pub qui s'appelait The Rhymers Club. The Rhymers Club, c'est-à-dire le club des poètes, pour faire des rimes en gros. Et il y a eu plusieurs présidents très célèbres, dont Conan Doyle, Don Chesterton en personne. Et chaque année, il y avait une cérémonie en hommage à Johnson. Et dans la charte du club, il était dit que les personnes devaient rejoindre de leur lieu d'habitation le pub à pied, avec la perruque poudrée et habillé en Dr. Johnson. Voilà. Et ils étaient 6 membres. Et que leur servait-on ? On leur servait un pâté à la bière et au bœuf. Voilà.
Ah ben ça coupe envie d'être poète.
I have sailed the world, beheld its wonders, from the Dardanelles to the mountains of Peru, but there's no place like London.
No, there's no place like London.
Mr. Todd?
You are young, life has been kind to you.
Et là, regardez, nous sommes dans ces arrière-cours de Fleet Street. Donc, nous allons arriver chez le Dr. Johnson, nous allons continuer, et puis je vais vous présenter son chat, au Dr. Johnson. Je vais vous présenter Hodge, qui est un chat. Et alors, Churchill adorait cette anecdote. Vous savez que Johnson vivait avec un de ses amis, qui était James Boswell, qui était un écrivain écossais. Ensemble, ils vont écrire « Voyage à travers l'Écosse », un livre absolument formidable, plein d'humour. Et alors, il y avait un problème de désaccord total entre Johnson et Boswell. Churchill, ça l'amusait beaucoup. C'est que Johnson avait un chat, ce chat qui s'appelait Hodge. Je vais d'ailleurs vous le présenter assis sur son dictionnaire. Eh bien, Hodge était un chat qui ne mangeait que des huîtres. Et bien sûr, oui. Alors, vous savez qu'à l'époque, c'était quand même le plat du pauvre. Mais Boswell, qui était écossais, donc assez radin, ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on osait vraiment acheter des huîtres pour un chat. Voilà. Regardez dans cette lumière de printemps qui est magnifique à Londres, vous avez la maison de Samuel Johnson, que Churchill admirait. Il admirait
ce qu'il admirait. Parce qu'il avait lu, bien entendu, et c'est, on l'a vu dans la bibliothèque, autant à Chartwell qu'à Blenheim Palace, il a la vie de Samuel Johnson par Boswell, qui est quand même le grand début de la biographie en Angleterre.
Absolument, le grand début de la biographie en Angleterre, oui. Biographie très recherchée, très fouillée. Ben voilà, Hodge.
Un classique.
Voilà, un de mes meilleurs amis londoniens, vous voyez, il est là.
Voilà le chat.
Voilà donc le chat. Voilà, qui se trouvait là.
Pourquoi est-ce qu'il est sur un dictionnaire ?
Il est sur un dictionnaire parce que c'est le dictionnaire de son maître, de Johnson. Et puis, bien sûr, regardez, les huîtres sont là.
Les huîtres sont là.
N'oublions pas, les huîtres sont là. Et c'est la société des amis de Johnson et de Boswell qui ont fait élever cette statue à ce chat. Voilà. Vive l'Angleterre, je trouve ça vraiment fabuleux, une statue à un chat.
C'est fabuleux, oui, effectivement.
Absolument.
À la recherche de Winston Churchill, l'artiste, le poéticien, l'homme privé, troisième épisode de notre série, l'écrivain. Prise de son Yves Lehors, Tanguy Le Corneau, Michel Gassic, Guillaume Rialan, Alain Joubert, Pierre Montail, Xavier Lévesque. Archivina Sabine Dahuron, traduction et documentation Ignace Benslama. À la recherche de Winston Churchill, une série de Pierre Assouline et Yvon Croisier.